El Salvador, 2004. La table était dressée pour un festin, mais tous les couteaux à découper avaient été cachés. Il n'aurait pas fallu qu'un oligarque se fasse égorger au-dessus de sa carne asada. Nous étions 12 assis autour du banquet. La familia Sola d'un côté, les Quiñones de l'autre. Des serviteurs affairés déposaient devant nous des assiettes bleues où s'empilaient pupusas et yuca frita. Les bougies sur les candélabres en argent dispensaient une lumière vacillante et les pas résonnaient sous la voûte du plafond. L'air sentait la viande grillée et la coriandre. « Comment se passe la production du pacamara ?» a demandé papa, qui peinait à masquer la tension dans sa voix. Nos invités possédaient une vaste plantation de café au Chalatenango. Mauvaise année, non? Il n'y a presque pas eu de saison humide. Señor Quiñones a changé de position dans sa chaise en bois. Raphaël a expérimenté de nouvelles techniques de traitement, et la qualité est exceptionnelle, a-t-il répondu, en braquant sur mon père un regard de défi. Nous avons rendez-vous avec un importateur européen de premier plan la semaine prochaine. Ravi de l'entendre. A laissé échapper mon père entre ses lèvres pincées. Il n'avait manifestement jamais été aussi peu ravi d'entendre quoi que ce soit. Il était célèbre pour son irascibilité, ses chapelets de jurons et son tempérament bouillonnant. Mais il y avait de la tendresse au fond de lui. Un faible pour le rock, un amour de l'architecture, un sens de l'humour taquin. Et une authentique adoration pour ses enfants, qui ne s'exprimait pas par des compliments mièvres ou des histoires du soir, mais dans l'ardeur qu'il mettait au travail pour nous assurer une vie prospère. Il me manquait déjà, alors que je n'étais pas encore partie. Une sorte de peine anticipée à laquelle je m'étais habituée au cours des derniers siècles. Animée par un vain instinct de survie, mon esprit répétait le deuil avant que la mort ne referme ses doigts sur moi, comme si le fait de s'y exercer pouvait atténuer le choc. Ça n'a jamais été le cas. J'aurais 18 ans dans 4 jours à peine, ce qui signifiait que je mourrais bientôt. Et dans ma prochaine vie, papa ne serait qu'un étranger. Sans vraiment y penser, j'ai posé un regard scrutateur sur chacun de nos invités, puis sur les serviteurs qui s'affairaient autour de la table, à la recherche de cette étincelle, de cette force d'attraction, de ce quelque chose, sans remarquer quoi que ce soit, ni qui que ce soit de suspect. Passer en revue les visages était un tic paranoïaque qui me venait aussi naturellement que de respirer. L'hypervigilance ne m'avait encore jamais sauvée. Mais il m'était impossible de me départir de cette habitude trop profondément enracinée. « Buen provecho », a annoncé Mama, en invitant d'un geste les convives à manger. Elle avait l'air d'une parfaite hôtesse dans sa robe blanche à manches bouffantes et ses lèvres rouges vifs. Mais ses yeux étaient marqués par l'attention. « Ça va aller, Mama », lui avais-je murmuré dans la cuisine avant leur arrivée. « Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vos enfants, c'est tout ce qui compte. » Elle avait serré ma main dans la sienne et soupiré. « Tu vois toujours le bon côté des gens, des choses. Je ne sais pas d'où tu viens, Mirayo de Sol, mais j'espère que tu ne changeras jamais. » Les Sola et les Quiñones étaient de vieux amis devenus d'implacables ennemis. Durant le XXe siècle, nos intérêts avaient convergé. Alors, nos plantations se touchaient, jusqu'à ce que nos deux fermes aient été rasées par un pyromane sans scrupule au premier jour de la guerre civile. Les familles s'étaient mutuellement accusées d'une tentative de sabotage qui s'était retournée contre leurs auteurs. Une trêve temporaire avait récemment été conclue parce que ma sœur au cœur fantasque, Sylvia, s'était éprise du fils aîné des Quiñones. Si cela devait donner lieu à un bain de sang, nos pères préféraient qu'il se produise avant le mariage. « Bon », a dit Señor Quiñones, signalant que l'échange d'amabilité était terminé. Il a empalé un morceau de bœuf au bord noirci avec sa fourchette, mais s'est arrêté dans son geste. Papa a grimacé. « Bon ». Señor Quiñones a plissé les yeux, et aucun des deux hommes n'a prononcé un mot de plus. « On pourrait peut-être sauter la mise en scène Montaigu Capulet, non » ai-je demandé d'une voix enjouée avant de fourrer un morceau de yuca frita dans ma bouche. « Pour les enfants. » Un peu cavalier, peut-être. Mais, pour ma défense, j'étais un être immortel sur le point de disparaître d'un jour à l'autre. Cela se produisait toujours à l'approche de la date fatidique. Une parole déplacée, quelques secrets divulgués, des non-dits verbalisés. Mama m'a jeté un regard outré, tandis que Raphaël, le deuxième fils des Quiñones, étouffait un éclat de rire de l'autre côté de la table. Ses boucles châtain foncé encadraient son visage, et ses lèvres formaient une moue amusée. « No seas tan dunda !» a soufflé ma grand-mère, d'ordinaire silencieuse. Elle ne cessait de m'exhorter à ne pas être si stupide. J'ai haussé les épaules. On devrait se réjouir, il y a de l'amour dans l'air, après tout. Love is in the air. En entendant mes vocalises, aussi approximatives qu'enthousiastes, Raphaël n'a pas pu se retenir de glousser. Papa m'a fait les gros yeux. Adela, tu ferais mieux. D'aller prendre l'air ? Je me suis levée avec un sourire innocent, tandis que la mâchoire de ma sœur se décrochait. Je suis d'accord. Sans un regard en arrière, j'ai poussé les doubles portes en acajou donnant sur le patio. Les dernières paroles que j'ai entendues étaient celles de mon père s'excusant d'avoir engendré un tel clown. Ce à quoi Seigneur Quiñones a rétorqué d'un ton bourru que j'avais hérité de son talent pour le chant. Glace brisée. De rien, Sylvia. Je ne craignais pas les conséquences de mon comportement. La colère de mon père ne me tuerait pas. Une seule chose, une personne en avait le pouvoir. Dans l'air du soir chaud et stagnant, les Makilichwats débordaient de fleurs roses en trompettes qui oscillaient délicatement sur leurs branches, telles des danseuses en jupe cloche. Les volets cobalt étaient tous ouverts. J'ai suivi les dalles en terre cuite de l'allée, jusqu'à la petite piscine en forme de haricot qui occupait le coin opposé, partiellement ombragé par un oranger. Une invasion d'algues vertes troublait l'eau près des bords. Après avoir ôté mes espadrilles et soulevé ma jupe bouffante, bleu céruléen brodé de roses rouges et or, je me suis assise au bord du bassin, les pieds dans l'eau fraîche. Par une fenêtre à barreaux de la maison, j'ai entendu un domestique faire tomber quelque chose et jurer entre ses dents. « Puchica !» Les portes se sont rouvertes avec fracas, et aussitôt refermé, laissant échapper dans l'intervalle une éruption de voix échauffée. L'espace d'un instant, j'ai cru que ma mère venait me faire la leçon. Mais ce n'était pas Mama, c'était Raphaël. Le cadet des Quiñones et moi fréquentions la même école privée et les mêmes clubs enfumés. Pourtant, nous évoluions dans des cercles différents. Il y avait entre nous une sorte de détestation feinte, mais dépourvue de la profondeur que nos pères auraient aimé y voir. En réalité, je n'avais pas vraiment d'opinion sur lui. Pourtant, en le voyant approcher, mon cœur a manqué un battement. Se pourrait-il que... Non. Je n'ai pas eu même un début de doute en sa présence.
Que onda? Quoi de neuf?
S'est-il enquis en s'avançant. Pour toute réponse, j'ai plissé les yeux.
Tu m'as bien amusé tout à l'heure.
Il y avait un sourire en coin, presque séducteur dans sa voix.
On avait l'impression que tu te fichais de ce qui pouvait arriver.
J'ai haussé les épaules, m'efforçant de réfréner le galop irrégulier de mon cœur. Tout ça, c'est... Avant de pouvoir finir ma phrase, j'avais un couteau sous la gorge. L'adrénaline a déferlé dans mes veines. Un vide s'est creusé dans mon ventre. La lame avait gardé la chaleur de sa poche. J'ai poussé un soupir patient et plissé les yeux. Putain, Ardenne. Ma voix dégoulinait d'un ennui sardonique, mais mon cœur battait à tout rompre. Même si ça m'était arrivé un nombre incalculable de fois, me faire assassiner restait douloureux. Et, en vérité, je n'avais pas soupçonné Raphaël un seul instant. Ardenne s'améliorait. Comment avais-je pu être aussi aveugle ? Comment avais-je pu ne pas ressentir cette laisse attirer violemment mon âme, ce magnétisme intime? Comment pouvais-je espérer me protéger, survivre, si je ne voyais pas venir la menace?
Quel dommage,
a-t-il murmuré. Son souffle caressait mon oreille telle une écharpe en soie. Il a posé un genou à terre comme s'il me demandait en mariage.
Adela Solat allait bien.
J'ai dégluti péniblement, et le couteau a mordu ma chair.